know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Ooh, just say you love me one day. Ooh, just say you love me one day. I'll give you space to the moon if it's what you need. Bring back yourself to me. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day.
Story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça. Radio Fribourg.
À l'ombre du baobab.
Cette semaine, le 7e art est à l'honneur. Tous les matins, Thierry Savary et Thierry Jobin déjeunent à Laeken et vous font découvrir la programmation du jour au FIF. Ce jeudi, focus sur les Suisses exilés. Ils seront nos invités, Jean-Jacques Fontaine et Alexandre Philippe.
Magnifique, bonjour Caro. Effectivement, focus sur ces invités qui sont quand même venus, hein, malgré le fait qu'ils soient exilés. On les accueille très volontiers avec Thierry Jobin, comme tous les matins ici en direct d'Aikon pour ces petits déjeuners du FIF. Là, on a juste café, eau, il manque un croissant, hein, Thierry, non?
Oui, bah pour l'année prochaine.
Bon, d'accord.
Nous cherchons un sponsor.
Ouais, pour l'année prochaine, il va falloir attendre d'ici là. Bon, bah, bienvenue messieurs, Alexandre Philippe, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Jean-Jacques Fontaine également, bonjour.
Bonjour. Merci.
On parlera bien sûr du Brésil, des États-Unis, de l'exil, un tant soit peu, et puis toujours de cinéma, hein, Thierry. Je crois que c'est quand même le leitmotiv premier de ces émissions.
Absolument. Beaucoup de cinéma et juste une petite annonce. Réservez vos billets si vous voulez voir des films aujourd'hui parce qu'il y a déjà 4 séances pleines. Voilà, c'est une journée qui sera... Vous avez vu, il y a le soleil qui est venu. Hein. Mm-hmm. Bon, moi je suis le seul gars de toute la ville qui est un peu triste quand il y a du soleil parce que les gens vont moins au cinéma. Mais je pense que le soleil est arrivé parce qu'il savait que c'était une journée un peu placée sous le signe du Brésil en particulier puisque en plus de la séance du film de Jean-Jacques Fontaine sur l'aventure Nova Friburgo, séance pleine malheureusement pour ceux qui nous écoutent, mais le film passera à la télévision plus tard, je pense Jean-Jacques vous en parlera. Et bien ensuite, on aura une rencontre avec les réalisateurs de l'ECAL, l'école d'art de Lausanne, qui sont allés à Nova Friburgo faire des courts-métrages au mois d'octobre. Je les ai pas encore vus, on les a reçus il y a 3 jours au festival. Et puis, on verra aussi les Brésiliens qui sont venus à Fribourg filmer les Fribourgeois, voir comment en 2 semaines on peut faire des courts-métrages sur Fribourg, qu'est-ce qu'on raconte de cette ville quand on la connaît pas encore ou si rapidement. Tous ces films seront projetés vers 20h30 et puis ensuite on aura une séance de minuit assez croquignolesque réservée uniquement aux âmes peu sensibles puisque le film s'appelle The Cannibal Club. C'est un film, je pense que Louise Buñuel n'aurait pas renié, parce que c'est vraiment un film de cannibale qui ressemble un peu à Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, parce que ça raconte la manière dont les riches blancs brésiliens, et Jean-Jacques pourra nous dire à quel point c'est vrai ou pas, dévorent littéralement les pauvres et les gens qui viennent de l'immigration par l'esclavage, ou aussi les natives, comme on dit aux États-Unis, les natives. Donc c'est un film qui n'est pas seulement un film d'horreur, c'est un film profondément politique qui essaie de raconter quelque chose. Et puis ensuite, on finira par une soirée brésilienne à frisson pour ceux qui seront encore vivants après le film de
qui n'auront pas été dévorés. C'est ça. Jean-Jacques voulait réagir.
C'est quand même
déjà
un cannibalisme un peu symbolique, je veux dire. J'aimerais rassurer les gens sur les plages de Copacabana ou d'Ipanema. Les blancs ne mangent pas les noirs au Brésil.
C'est déjà bien. Première mise en point importante pour cette émission. Ou alors, effectivement, placée sous le signe du Brésil. Le soleil est là, le froid persiste, hein, ce qui nous encourage quand même à aller dans les salles de cinéma.
Ouais,
je vous rassure.
Merci la météo.
Il n'y aura pas de problème de ce point de vue-là. Nos invités, comme je le disais tout à l'heure, Alexandre Philippe, Jean-Jacques Fontaine. Jean-Jacques Fontaine, vous êtes journaliste. Vous avez beaucoup travaillé ici, bien sûr, aussi à la RTS. Vous avez été correspondant, je crois, pour La Liberté au Brésil, entre autres. Vous vivez aujourd'hui au Brésil, Jean-Jacques?
Oui, effectivement, je vis à Rio de Janeiro, le Brésil est un pays que je fréquente depuis une 30aine d'années, et ça fait 10 ans que je suis installé au Brésil, plus ou moins définitivement, avec des petits séjours en Suisse quand même.
Absolument, avec beaucoup de... J'allais dire beaucoup de tensions ces temps-ci à Rio. C'est vrai que la ville est un petit peu en feu et en effervescence.
Oui, enfin, il faut faire attention aux images aussi. Effectivement, il y a surtout une grande désillusion en ce moment au Brésil. Après des années fastes, je dirais, entre 2003-2004 et 2010-2012, c'est-à-dire avant la grande crise économique, des années fastes parce que le pays allait bien économiquement, parce que le prix des matières premières étant très élevé au niveau mondial, le pays en récupérait une bonne partie, qu'il y a eu des politiques intéressantes de redistribution en direction des plus pauvres, des bénéficiaires de la croissance, qui a permis quand même à 30aine de millions de personnes sur 200 millions de sortir de la pauvreté absolue, ce qui n'était pas inutile. Et tout ça est malheureusement largement retombé aujourd'hui, aussi parce que le pays n'a pas su prévoir l'avenir, c'est-à-dire qu'il s'est un peu contenté de jouir de cette croissance sans se demander ce que serait le futur. Et puis aussi parce qu'on découvre petit à petit l'ampleur de la crise politique et des scandales de la corruption. Alors il est évident que la violence, au moment où la récession arrive, elle renaît,
elle augmente.
Elle augmente aussi parce que les budgets de l'État diminuent, que donc l'argent qu'on met pour la sécurité diminue, donc dans les interstices de cette crise, effectivement, les trafiquants reprennent le contrôle de certaines zones, notamment dans les favelas de Rio.
Et c'est encore plus complexe que ça, puisqu'on peut mêler à tout ce portrait, les policiers, la police, etc., qui fait partie aussi de toute cette grande histoire
brésilienne. Absolument, et récemment, il y a eu cette affaire, il y a quelques jours, de l'assassinat de Marielle Franco, députée de la Chambre municipale de Rio, qui défendait les plus pauvres et qui s'élevait contre les violences policières et qui a été sommairement assassinée par vraisemblablement, enfin, l'enquête le dira, vraisemblablement, ce qu'on appelle les milices qui sont formées d'anciens policiers ou de polices parallèles.
Voilà, ça c'est une vision et une image du Brésil. Il y en a bien d'autres, bien sûr. On pourrait parler encore des Jeux Olympiques, parce que je crois que vous avez écrit un livre à ce sujet, Jean-Jacques, c'est juste?
Oui, absolument. J'ai écrit 2 livres sur le Brésil, dont un sur les transformations que la ville de Rio a vécu à l'occasion de la mise en place des Jeux Olympiques de 2016. Un projet d'ailleurs intéressant de transformation urbaine qui a relativement bien fonctionné. Je crois qu'il ne faut pas voir non plus d'une manière caricaturale le résultat des Jeux Olympiques de Rio. La crise se superposant à ça, effectivement, les promesses que ce projet de réurbanisation avait au départ ne se sont pas concrétisées, mais en tout cas, on peut dire que la tentative, en tout cas, de mettre en place, de profiter des Jeux Olympiques pour mettre en place une réforme urbaine était assez intéressante.
Bien, on va pas... On va dire, s'étendre sur les difficultés du Brésil, mais on parlera bien sûr du phénomène d'immigration. Et puis Alexandre Philippe qui est là aussi, alors pas exilé, hein, parce que le terme est, j'imagine, un peu dur, mais enfin vivant aux États-Unis depuis pas mal de temps, Alexandre Philippe.
Ben oui, déjà depuis 24 ans, donc ça fait quand même.
Ah oui. Oui.
Quand même.
C'est presque notre âge cumulé.
voilà. Non, mais je reviens souvent. D'ailleurs, de plus en plus souvent ici en Suisse maintenant.
Mm-hmm. D'accord.
Ouais. C'est une autre sorte d'exil, Alexandre. C'est intéressant, en fait, de réunir ces deux personnages qui font du documentaire, avec une approche journalistique, d'une certaine manière, même si Alexandre est plus, pour moi, un enquêteur au sens 19e siècle. Sherlock Holmes, quand il part sur un sujet, il va chercher tellement profondément. C'est lui qui avait fait ce documentaire qu'on a passé l'année dernière et qui, maintenant, a fait le tour du monde et continue de faire le tour du monde sur la scène de la douche dans Psychose. Il a 4 projets en ce moment. Peut-être qu'il nous en parlera, je l'espère, parce qu'ils sont tous très intéressants. Peut-être même 5 projets, mais on n'en parlera pas. Mais enfin, voilà, c'est quelqu'un de très curieux, mais qui vit aussi, et c'est ça qui est aussi intéressant, pourquoi aller vivre dans un pays qui a des problèmes. Alors là, Alexandre, il est dans un pays qui est dirigé par un homme qui s'appelle Donald Trump, que vous connaissez peut-être, dans une industrie du cinéma où il y a un certain Harvey Weinstein qui a existé. Enfin, je veux dire, il y a des endroits plus joyeux pour créer. Mais je sais qu'Alexandre ne perd jamais son enthousiasme par rapport à l'Amérique.
Non, mais d'ailleurs, c'était assez surréel pour moi, parce qu'en fait, je suis devenu américain, ça fait presque un an maintenant, et donc, le jour où je suis devenu américain, ben, Trump était notre président. Et c'était... C'était vraiment bizarre, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Ça, c'était vraiment la chose à laquelle je m'attendais pas, quoi. Mais bon, je suis toujours suisse, hein. Je suis français, je suis américain, j'ai trois nationalités, en fait. Mais c'est un pays qui, dans un sens, qui change pas. C'est un pays qui est complètement fou. Que j'adore, c'est un pays qui me rend aussi un petit peu fou, parce qu'il y a des trucs, enfin bon, là, on voit la violence, je veux dire, les armes à feu, tout ça, c'est incroyable de voir ça aux États-Unis, le nombre de morts qu'il y a chaque année. Mais à côté de ça, ça reste toujours un pays qui, à mon avis, a des côtés extraordinaires, et je crois qu'on vaincra absolument Trump, on s'en sortira, je pense, très bien. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ça fait peur, ouais.
Oui. Trump, très particulier, hein, cela dit, comme personnage, d'une part, mais aussi qui se vaincra peut-être lui-même.
Qui bah sait. Voilà, exactement.
Parce que j'ai l'impression que des fois...
Je l'attends le moment, mais ça va se passer, c'est clair.
Ça devrait se passer. Hein. On trouve des similitudes, on parlait tout à l'heure de ce pays un peu fou. Finalement, le Brésil n'est pas si éloigné que ça des États-Unis par rapport, j'allais dire, à la conception qu'on a parfois des choses, de la vie, de la manière de formuler tout simplement la vie.
Il est même encore plus proche qu'on ne croit, notamment par rapport aux autres pays de l'Amérique latine qui parlent tous espagnol. Le Brésil est le seul où on parle portugais, parce que c'est un pays où les gens, où la mentalité des gens, un peu à l'américaine, n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire que pour eux, il n'existe que le futur et pas le passé. C'est aussi un pays où les migrations intérieures sont extrêmement importantes, beaucoup plus qu'ailleurs en Amérique latine, et ça aussi, ça ressemble aux États-Unis.
Oui, c'est vrai que les gens se déplacent beaucoup au Brésil, hein, mais toujours pour se concentrer la plupart du temps dans les grandes villes, São Paulo, Rio...
Bon, alors, le phénomène de la concentration absolument. Urbaine, il est mondial. Hein. Aujourd'hui, plus de 70% de la population vit dans des villes, hein, dans le monde entier.
Ouais. Donc, des analogies entre ces deux pays aussi, qui sont des pays où l'énergie de vie est extraordinaire, hein, Jean-Jacques. Je crois que le Brésil est un pays unique en ce genre, en termes d'énergie.
Oui, ça a trait à justement cette idée que le Brésil est le pays du futur, et puis on dit en rigolant, mais un futur qui se réalise jamais. Mais enfin, ça ne fait pas perdre l'enthousiasme des gens ou la sensation positive que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Comment est-ce que vous vous situez, vous, dans ce pays, hein ? Ça fait 20 ans, je crois, que vous y êtes, Jean-Jacques. C'était un choix lié alors à votre profession, à l'envie de faire quelque chose de différent, au pays qui vous a attiré, tout simplement ?
Non, alors... Non, c'est un pays dans lequel je suis arrivé en 1985, en fait, comme journaliste, correspondant de médias suisses, dont La Liberté de Fribourg, pour couvrir la première élection d'un civil à la présidence de la République à la fin de 23 ans de dictature. C'était Tancredo Neves à l'époque. Mmh. Et puis Tancredo Neves, à peine élu, est tombé malade et est mort. Ce qui fait que, évidemment, tous les médias ont commencé à s'intéresser à ce qui se passe, cette transition brésilienne. Du coup, je suis resté. J'y ai rencontré celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Et donc, depuis cette époque-là, je suis effectivement en permanence entre la Suisse et le Brésil. Et puis, ayant déjà un certain âge canonique, contrairement à vous, j'ai pris ma retraite il y a 10 ans. Et à ce moment-là, on a décidé d'aller se réinstaller au Brésil.
D'accord. Voilà, la boucle est bouclée. Chercher la femme, hein, c'est souvent, on va dire, c'est souvent le cas.
Quoique. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais, dit-il. Bon, on n'extrapole pas là-dessus. Mais enfin, c'est un pays qui, quoi qu'il en soit,
attention, est l'affaire Weinstein.
Oui, oui, oui. C'est un pays qui est devenu aujourd'hui votre deuxième patrie aussi. J'imagine.
Oui, mais moi je suis pas brésilien, contrairement à lui qui est devenu américain. Moi j'ai pas pris la nationalité brésilienne. Je suis resté suisse et que suisse. Ce n'est qu'un passeport, contrairement à ma femme qui en a 3.
D'accord. Donc pour vous finalement la réalisation de ce documentaire sur Nova Friburgo coulait de source aussi. Ça faisait partie un petit peu de votre parcours, de votre ADN.
Oui, d'abord parce que ma femme vient de là, elle n'est pas d'origine suisse, mais elle vient de là. Ensuite, parce que pour la liberté, effectivement, dans les années 80, j'ai suivi d'assez près tous les projets de réapproximation entre Fribourg et Nova Friburgo, notamment autour de la construction de la fromagerie-école, du musée de l'émigration à Nova Friburgo, et j'ai pu couvrir un peu les aléas, disons, de cette réapproximation pour le journal de Fribourg, La Liberté. Donc du coup, je suis resté effectivement assez proche de Nova Friburgo, et puis ma belle-mère y habite toujours.
Bon, donc vous allez de temps en temps à Nova Friburgo, j'imagine. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui, qui nous parlait moins fut un temps, hein, parce qu'il y a eu toute une époque où finalement les gens ne savaient même pas que Nova Friburgo d'une part existait, 150 ans à peu près. Donc c'est quelque chose qui est revenu, ressorti il y a quoi, une trentaine d'années à peu près, j'imagine. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû précisément, alors, mais enfin oui, il y a une personnalité quand même,
oui,
qui a beaucoup à travailler pour.
En fait, donc l'émigration des Suisses à Nova Friburgo qui ont fondé cette ville, elle date de 1818-19, hein, et pendant 150 ans, ces deux villes se sont complètement tournées le dos. Personne ne savait rien. Et puis en 1973, un historien de Fribourg, Martin Nicoulin, a fait sa thèse de doctorat sur cette émigration et a permis de redécouvrir un peu ces descendants de Suisse qui étaient partis pratiquement il y a 2 siècles maintenant. Et c'est à partir de là que, effectivement, des deux côtés, on a commencé à se rappeler que Fribourg et Nova Friburgo avaient une relation. Et à partir de là, c'est reconstruit, finalement, un rapport entre les deux villes qui va cas en cas, c'est des moments forts et des moments plus faibles. Cette année, c'est des 200 ans donc de la création de Nova Friburgo. Donc il y a un moment fort ici à Fribourg et là-bas. Il y a eu d'autres moments plus faibles. Mais effectivement, cette redécouverte des relations est relativement récente pour les gens et pour les villes.
Et ça dépend toujours aussi, bien sûr, des hommes qui sont en place, hein, que ce soit ici ou à Nova Friburgo. Là, je parle des politiques, entre autres,
et du préfet. Il y a aussi des va-et-vient.
Il y a aussi des va-et-vient. Thierry, Nova Friburgo.
Est-il vrai qu'il y avait des objets à Nova Friburgo qui avaient été emportés par les premiers, mais que plus personne ne savait les utiliser, des objets qui servaient à fabriquer le fromage, le chocolat ou...
Absolument. Et il y a même dans une des familles dans laquelle on est allé filmer et qu'on a retrouvé, une dame qui nous a sorti un outil comme ça qu'elle appelait un bréchet. Ça, c'est un bréchet. Qu'est-ce que c'est qu'un bréchet? En l'occurrence, c'est une déformation du nom français, c'était un fer à bricelet. Et bon, il n'était pas d'origine suisse, hein, il avait été fabriqué là-bas, mais effectivement, c'est une tradition qui était venue d'ici avec ces émigrants.
Hein, j'ai le sentiment, en regardant votre film aussi, que finalement les gens sont en train de redécouvrir cette appartenance première à la communauté helvétique, à la Suisse aussi, que c'est quelque chose qu'ils ignoraient, entre guillemets, et qui, grâce peut-être au travail qui a été fourni, que ce soit ici ou là-bas, pour rapprocher ces deux communautés, les gens commencent à être beaucoup plus sensibles à ce phénomène de d'immigration d'une part, mais aussi de connaissances proches. Hein. On retrouve des cousins, des petits cousins qu'on ignorait, etc.
Alors, il y a effectivement les rencontres et le sens de ces rencontres et la continuité, enfin le sens de la continuité de ces rencontres. Est-ce que ça sert à quelque chose, finalement, de rétablir ces liens? Mais il y a surtout ce phénomène de l'émigration. Et ça, pour nous, ça a été... en tout cas au niveau de la préparation du film, alors que moi je l'avais plutôt conçu au départ sur les rencontres, ça a été vraiment pour moi la révélation, c'était de dire mais au fond ce phénomène de l'émigration de 1818 où les gens crevaient de faim en Suisse et sont partis a des similitudes incroyables avec l'émigration, notamment des gens qui viennent d'Afrique noire vers l'Europe aujourd'hui, qui traversent la Méditerranée avec des outils semblables, c'est-à-dire que finalement ceux qui devaient partir ou ceux que les autorités fribourgeoises voulaient envoyer au Brésil en 1818, c'était ceux qui étaient dans la misère et qui pesaient sur les politiques d'État. Mais ceux qui sont partis, c'est pas ceux-là. Ce sont ceux qui avaient un peu plus de moyens et qui avaient encore la force de se dire on va recommencer notre vie ailleurs. C'est la même chose aujourd'hui. En Afrique, ceux qui montent qui prennent les bateaux pour traverser la Méditerranée, ce ne sont pas les plus pauvres. Ce sont ceux qui ont encore un peu d'envie de refaire leur futur. Autre similitude, aujourd'hui, ces bateaux qui traversent la Méditerranée, ils sont gérés par des passeurs. Qui a organisé l'émigration de Fribourg vers Nova Friburgo en lien avec les autorités fribourgeoises et le roi du Portugal? C'est un dénommé Gachet, qui était effectivement un passeur qui s'est fait de l'argent sur cette émigration.
Mmh. On retrouve beaucoup de similitudes. Donc.
Ce qui est absolument terrifiant quand même, c'est à la fois les autorités d'ici qui cherchent à se débarrasser des pauvres, hein, ça il faut quand même le rappeler, et puis d'une certaine manière aussi, il fallait blanchir le Brésil. Hein, ça vous pouvez peut-être en parler.
Oui, tout à fait. Alors donc, il faut dire que le Brésil a été un des lieux essentiels du trafic d'esclaves hein, qui venait d'Afrique. Hein, je veux dire, le port de Rio de Janeiro était le principal marché d'esclaves au XVIIIe siècle. Il y a plus 1 million d'esclaves noirs africains qui sont passés par ce marché d'esclaves à Rio de Janeiro. Et effectivement, la quantité d'esclaves noirs, entre guillemets, qu'il y avait notamment lorsqu'il y a eu le développement du café, au début du fin du 18e début du 19e siècle, a fait que la population noire a beaucoup augmenté. Hein. Et puis, parallèlement à ça, début du 20e, du 19e siècle, il y a la révolution d'Haïti, premier pays noir qui se libère. Donc, les autorités portugaises à l'époque, puis c'était une colonie portugaise, ont eu très peur à un moment donné que le Brésil suive le chemin d'Haïti et devienne une république noire. Et ils se sont dit, il faut qu'on blanchisse ce pays. Il faut qu'on fasse venir une émigration d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle cette émigration des fribourgeois, enfin des Suisses romands, parce qu'il n'y a pas que des fribourgeois, hein.
Il y a des Jurassiens aussi.
Il y a des Jurassiens, il y a même des Suisses allemands, des Valaisans, etc., vers le Brésil a été une émigration institutionnellement organisée de la part des autorités de Fribourg pour se débarrasser des pauvres et de la part du royaume du Portugal pour faire venir des Blancs.
Et on le voit, hein, lorsqu'ils arrivent, la plupart du temps, on leur attribue des terres pour faire des cultures, on va dire, plutôt traditionnelles. Eux disent non, on est ici pour faire de l'argent, donc on veut faire du café et on veut des esclaves. À peu de choses près.
À peu de choses près.
Je caricature.
Il y a eu ça, mais c'est vrai que l'arrivée, donc, d'abord, le voyage a été très compliqué parce que, évidemment, et là, c'est le rôle de Gachet, le passeur. Lui, il a essayé de mettre le maximum de gens sur les bateaux pour se faire plus d'argent. Résultat, il y a près d'un quart de ceux qui sont partis qui sont morts en route. C'est plus en proportion que les navires négriers qui venaient d'Afrique vers le Brésil. Ensuite, au départ, effectivement, on leur a donné des terres, mais dans des zones couvertes de forêts, extrêmement escarpées, donc très difficiles à cultiver, avec un subside que le roi du Portugal leur a donné durant la première année, et puis après plus, mais avec aussi interdiction de partir. Et ils voyaient, à 50 kilomètres de là, vers l'ouest, dans une vallée qui s'appelait la vallée du Rio Paraíba, des colons portugais et brésiliens extrêmement riches qui extrayaient le café. Ils voyaient passer les mules avec les sacs de café qui avaient vers le port de Rio, qui passaient par Nova Friburgo, qui était plus haut. Donc petit à petit, ils sont partis là-bas et ils ont fait fortune dans le café. Et 2 ans après l'arrivée des Suisses à Nova Friburgo, il y en avait donc 1400 qui sont arrivés, il en restait 300 à Nova Friburgo, tous les autres étaient allés dans la région du café.
Ouais. Nova Friburgo qui est en montagne aussi, en altitude, hein, pour les gens
c'était
qui
connaissent pas. C'était à 800 mètres d'altitude, oui.
Oui, alors en altitude, entendons-nous, mais par rapport au Brésil, c'est vrai que ça fait quand même une différence. Et il fait, le climat est un petit peu plus rude à Nova Friburgo qu'il ne l'est à Rio, par exemple, qui n'est qu'à 2h30, 3h de route à peu près. Thierry,
je vois.
vois Alexandre.
Oui, il a l'air fasciné.
Je savais pas il y a une semaine, je savais même pas que Nova Friburgo existait quoi. Donc c'est mais blanchir l'Amérique, ça parle quand on en les suprématistes blancs proches de Donald Trump, sa manière de renvoyer des immigrés pour justement éviter un peu le même genre de choses d'une certaine manière.
Ouais. Non mais c'est marrant parce que ce que Trump est en train de faire dans un sens, c'est qu'il nous fait vraiment réaliser qu'on vit dans un pays dont je crois qu'on savait pas où vraiment où on vivait. Et finalement, c'est ça qui est assez bien, parce que je crois qu'on avait cette illusion que grâce à Obama, on avait vraiment fait des pas en avant, et c'est sûr qu'on en avait fait, c'est clair. Mais en fin de compte, il y a toujours des énormes problèmes, et je crois que Trump nous permet de nous rendre vraiment compte d'où on est, qu'on a encore énormément de progrès à faire, et c'est peut-être pas nécessairement un pas en arrière, mais c'est un projecteur, je dirais, sur la réalité. Et ouais.
Bien. On va écouter un peu de musique. je suis emprunté parce que finalement j'ai oublié d'imprimer les deux titres que nous allons passer aujourd'hui. Alors je les cherchais sur mon portable, mais je sais pas, quelqu'un nous les présente aujourd'hui. Alors je ne sais plus.
Que vous cherchez. Ouais. Je vais dire simplement que chaque jour, ce sont les élèves de l'ICON qui choisissent des morceaux qu'on entend à l'antenne sur Radio Fribourg, en lien, si possible, avec le festival, avec les différentes sections. On a eu plein de belles choses depuis le début de la semaine, et puis j'imagine qu'il y aura quelque chose de brésilien aujourd'hui, ou non?
Même pas sûr.
Qui doit présenter le film, la musique?
C'est Coralie Clément, voilà, j'ai retrouvé.
Où est Coralie?
Elle n'est pas là.
Bah, je vais vous aider. Le morceau s'appelle Toco, et puis il y a la participation de Coralie Clément dans le cadre de ce morceau brésilien. On y va?
Que voulait-elle présenter?
Ah, génial, en plus ça a une connotation brésilienne.
Voilà.
Toco, contradição. On écoute.
C'est parti.
Radio Fribourg.
Thierry Savary, Thierry Jobin en direct de l'ICON pour le FIF, Festival du film international de Fribourg. Leurs invités, Jean-Jacques Fontaine et Alexandre Philippe.
Eh ben, on n'a plus rien à dire. Ouais, super, Caro, merci. On a retrouvé nos pauses musicales. Bref, on a retrouvé un petit peu tout ce qu'il fallait pour que cette émission se poursuive et sous les meilleurs auspices avec Jean-Jacques Fontaine et puis bien sûr Alexandre Philippe. J'en profite pour dire, alors malheureusement, que ce soir, il y a un programme Nova Friburgo. Quand je dis malheureusement, c'est juste parce que manifestement, c'est complet, hein, Thierry.
Alors, écoutez, le film de Jean-Jacques Fontaine, Nova Friburgo, est complet. Les courts-métrages faits par des Suisses à Nova Friburgo et par des Brésiliens à Fribourg, c'est complet. Par contre, ce qui n'est pas encore complet, c'est The Cannibal Club, le film Cannibal. Il reste quelques places, donc sautez dessus parce que c'est quand même, ça va être un grand moment. Donc je suis vraiment désolé pour les âmes sensibles, mais ce sera sans le Brésil, à moins de venir danser au Frisson après.
Exactement, puisque ce soir, vous pourrez poursuivre du côté de Frisson avec une soirée brésilienne et puis le documentaire. Premier documentaire du reste, je crois, d'Alexandre Philippe, dont nous allons parler d'ici quelques instants, de People versus Non.
Non, c'est moi, je raconte des bêtises depuis des années, en fait. Il a fait des films avant, mais il ne veut pas les montrer.
Ah, mais c'est pour ça, voilà. Non, c'est tout bon, Alexandre, ça fonctionne. Bon, ben, quoi qu'il en soit, The People versus Georges Lucas sera projeté ce soir à 18h à l'Arena 6. Vous pourrez le revoir également, j'ai fait des petites croix partout, ce sera vendredi. Ah oui. Vendredi, ben oui, à 21h. Et là, ce sera à l'Arena 6 et le film de Jean-Jacques et le programme Nova Friburgo, visible également samedi à 12h15, cette fois-ci à l'Arena 6. Voilà. Comme quoi, il vous reste quand même des possibilités d'aller voir tous ces films. On poursuit juste un petit peu avec vous, Jean-Jacques. C'est vrai que c'est un film, alors vous l'avez réalisé, mais vous l'avez réalisé avec un autre réalisateur brésilien. Cette fois-ci, c'était important d'avoir peut-être les deux points de vue, justement, puisqu'on est à la fois en Suisse et au Brésil.
Absolument, c'est un film effectivement qui traite d'une émigration en Suisse au Brésil et qui est d'abord destiné à un public suisse, mais ça me paraissait extrêmement important d'avoir un regard alternatif ou alterné, disons, avec un réalisateur brésilien qui lui voit cette histoire depuis le point de vue brésilien. Et c'est vrai que durant le tournage notamment et le montage ensuite, son apport a été très très important pour amener une certaine sensibilité que peut-être, malgré ma connaissance du Brésil, moi, en tant que Suisse, j'avais pas. Mmh. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est vraiment un travail à deux avec en co-réalisation Suisse-Brésil.
Et puis, avec la participation d'un historien aussi, qui s'appelle Monsieur Bon, qui, lui, est originaire de Genève, si je ne me trompe pas, mais qui est aussi un des fils conducteurs de ce documentaire.
Avec deux historiens, en fait, il y en a un de Fribourg, qui est Martin Nicolin, lui, on le connaît. Mais Éric Ebon, effectivement, est un personnage très intéressant parce que il est psychiatre à la base, mais il s'est beaucoup intéressé à l'histoire et à la généalogie, donc il connaît tout le monde à Nova Fribourg, donc il m'a beaucoup aidé déjà dans la préparation du film, l'organisation du tournage et tout ça. Et puis lui-même a une histoire assez extraordinaire parce que son ancêtre est arrivé après l'émigration fribourgeoise. Il n'est pas arrivé en 1819, il est arrivé en 1826. Et lui, il est arrivé de Genève, il avait de l'argent, et il est immédiatement allé dans les plantations de café, acheter une plantation de café pour s'enrichir. Et là, Éric Ebon a découvert des lettres que cet Henri Bon, émigré au Brésil, échangé avec son frère Jules Bon, resté à Genève. Et ce qui est très intéressant, c'est que Henri Bon raconte évidemment ses soucis avec ses plantations de café et le prix des esclaves, qui augmente sans arrêt. Et Jules Bon lui répond en lui parlant de ses soucis à lui, qui était un conservateur, avec la révolution radicale de James Fazi à Genève.
Absolument. Un bel échange aussi. Bien, vous l'avez déjà vu? Vous avez vu ce film, Alexandre?
Non, pas encore.
J'imagine, vous êtes aussi membre du jury.
Ben voilà, j'ai mal de choses à faire aussi. À visionner en ce oui. moment, mais j'ai vraiment très envie de le voir.
Cet après-midi, oui. Il y aura toujours une place pour vous.
Ben voilà, c'est gentil, c'est gentil. vous croyez que ça se passe comme ça?
C'est le directeur qui s'exprime. Non, on trouvera.
J'ai encore deux, trois invitations dans la poche.
Non, ce qui est intéressant, je trouve, le lien entre les deux, c'est moi, j'ai toujours été fasciné par les mouvements de masse, comme Alexandre. Et là, dans le cas de Nova Fribourg, on imagine comme ça une masse de gens qui se déplacent pour créer quelque chose de nouveau, avec une foi qui est capable de déplacer des montagnes, littéralement, de la Suisse jusqu'au Brésil. Et c'est ce que fait Alexandre. Hier, on a déjà projeté The People versus George Lucas, qui est un film de 2010 et qui parle justement de ce mouvement de masse en faveur de Star Wars et comment George Lucas, à force d'exploiter en faisant un peu n'importe quoi parfois, enfin, j'espère que je ne vais pas me faire taper par un ou l'autre des étudiants
et des personnages qui n'ont pas lieu
d'être. Faut faire attention parce que les vrais fans, ils sont violents. On peut le voir dans le film, ils sont hystériques. Mais quand même, ils ont du mal parfois à accepter certains choix comme le personnage de Jar Jar Binks, etc. Et c'était très marrant hier de pouvoir montrer ce film en séance privée à la Chambre de Commerce. Je suis très content parce que le festival accueille de plus en plus d'entreprises qui s'offrent des séances privées pour leurs clients ou même parfois pour leurs employés eux-mêmes et qui découvrent des films qui tout à coup décalent un peu leurs pensées par rapport au travail, mais qui, dans un cas comme ça, je sais qu'Alexandre a eu des discussions avec des chefs d'entreprise après la projection, le rapport entre George Lucas et eux-mêmes, comment on gère comme ça des clients, au fait, ce sont des clients les fans d'une certaine manière, prêts à acheter tout et n'importe quoi. Je sais pas ce que tu as à nous raconter par rapport à ces rencontres et les réactions de ces
gens. En fait, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y avait pas mal de fans, en fait, de vrais fans de Star Wars. J'avais pas cette impression nécessairement en rentrant dans la salle, mais je crois qu'ils ont été assez enthousiastes. Mais moi, je reste quand même fasciné, même si bon, j'étais un grand fan de Star Wars. J'avais d'ailleurs une énorme collection en fait que j'ai vendue le je crois juste après avoir sorti le film en 2010. Je ne pouvais plus, ça me sortait par les oreilles, je ne pouvais plus supporter. Mais je reste toujours très fan des films d'origine. Mais c'est marrant parce que la magie, pour moi, la magie Star Wars, je la trouve plus, quoi. Et je crois qu'il faut quand même, bon, même si les nouveaux épisodes sont quand même meilleurs que la prélogie épisode 1, 2, 3. Enfin, je le dis. Il y a certainement des personnes ici qui sont pas d'accord. On peut en débattre.
Poser des questions.
Mais, je veux dire, pour moi, c'est ce qui me fait, ce qui me rend un petit peu triste, c'est que bon, voilà, le mois dernier, ou il y a deux mois, je sais plus, je suis allé voir l'épisode 8. Bon, j'ai passé 2 heures sympathiques, enfin 2h20 sympathiques. Je sors du cinéma et puis voilà, bon, bah je pense à autre chose. Enfin, quand j'étais petit, attention là, j'allais voir
77 le premier. Hein, si
77 pas. Après, voilà, mais enfin Empire Strikes Back c'était 80. Et là, bon ben quoi, j'étais tout petit et puis j'étais complètement, je dirais, obsédé par cet univers parce qu'on avait rien d'autre finalement. On avait les jouets et puis voilà, on rentrait chez soi. On savait que Darth Vader était le père de Luke et puis il fallait attendre trois ans pour savoir ce qui allait se passer. Donc la seule chose à faire finalement, c'était de prendre ses jouets. Et puis d'imaginer ce qui allait se passer dans le prochain épisode. Il y avait pas l'internet, il y avait pas tout ça quoi.
Il y a quelque chose qui est très intéressant, je trouve, et tout à coup, je vois un lien entre, vous savez, on consacre une section à la Mongolie. La Mongolie est un pays qui a été nettoyé de son histoire, qui était une histoire immense, mais comme dans les yourtes, on se balade pas avec des bibliothèques de livres, c'était la parole qui tenait lieu d'histoire. Et les invités ici ont raconté assez souvent que les Chinois les ont vidés littéralement de leur culture et qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés face à un choix, c'était ne pas avoir d'histoire ou s'inventer une mythologie. Et la mythologie qu'ils sont inventée, c'est Gengis Khan. Il y a un film sur 10 qui parle de Gengis Khan, qui se sont faits là-bas. Et on disait tout à l'heure que les États-Unis n'ont pas d'histoire. En fait, ils en ont une qui est quand même l'histoire des indigènes qui ont disparu. Mais ils se créent des mythologies. Et Hollywood a créé vraiment des mythologies qui remplacent les tragédies grecques pour nous. Voilà. Et Star Wars, c'est probablement plus importante de ces mythologies pour les États-Unis.
Bah, c'est une des plus importantes. Il faut pas aussi oublier non plus le western. Et d'ailleurs, je regarde un petit peu ça sur un des 4 films sur lesquels je travaille en ce moment, qui est sur Monument Valley, donc cet endroit aux États-Unis que, enfin, si vous avez vu les westerns de John Ford, vous les voyez partout. C'est ces énormes monuments qui sont il y en a dans le Utah, il y en a dans l'Arizona. Et John Ford a vraiment complètement, réinventé la mythologie. Il a créé une mythologie de l'Ouest, des choses qui ne sont pas. C'est un Ouest qui n'a pas vraiment existé, quoi. Donc, et ça, je crois que ça change, ça a complètement changé la perception de l'histoire. Donc c'est assez passionnant pour moi parce qu'Hollywood a vraiment cette emprise, je dirais, sur notre idée de l'histoire des États-Unis. Ouais.
Mais George Lucas avait déjà cette envie ou voire cette prétention de créer une mythologie lorsqu'il a créé Star Wars.
Ouais.
Il avait véritablement conçu tout le concept même de Star Wars. C'est-à-dire, on parlait des jouets tout à l'heure, non, mais c'est hallucinant de voir à quel point on a été dans la pensée aussi loin pour en faire véritablement un mythe.
Oui, mais enfin, il faut pas oublier quand même qu'à l'époque, il était aussi entouré de beaucoup de personnes qui ont quand même fait Star Wars ce qui est, je veux dire. Si vous avez la possibilité de lire la première version du scénario de Star Wars, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, ça va n'importe où, n'importe. Il lui fallait vraiment. Et George Lucas est un personnage assez particulier parce qu'il a des idées de génie. Et je crois qu'il a eu vraiment la chance d'être entouré par les personnes qu'il fallait au moment où il fallait. Mais je crois que sans ces personnes-là, Star Wars ne serait pas la mythologie qu'on connaît. Il lui fallait vraiment de l'aide. Et d'ailleurs, on le voit. Enfin, moi, je le dis et je le répète encore une fois. Après, toutes ces personnes sont parties. Il était George Lucas, le créateur de Star Wars, et il ne s'écoutait que lui-même. Et ben, le résultat, c'est épisode 1, 2, 3. Bon, ben voilà.
Ouais.
Il a surtout inventé, c'est l'histoire des produits dérivés. Parce qu'il a eu un coup de génie. Parce que ça, on n'en parle pas. Effectivement, il y a la mythologie Star Wars dont on pourrait parler. Parce que là aussi, il s'est inspiré quand même, comme d'autres, d'Akira Kurosawa, par exemple. Hein. Voilà.
On peut dire inspiration.
Plagiat, quasiment.
Plagiat, ouais. Et non seulement Kurosawa, mais les serials comme Flash Gordon, Buck Rogers, beaucoup de BD aussi. Enfin, si vous regardez la séquence d'ouverture d'Indiana Jones, ça vient de Picsou. Non mais c'est vrai, si vous regardez, il y a une BD qui est sortie et c'est la séquence exacte d'ouverture d'Indiana Jones. C'est un petit peu décevant quand même.
Non, alors le truc qu'il a vraiment inventé, c'est de dire au studio, parce que personne ne croyait en lui, ben donnez-moi les produits dérivés.
Voilà.
Là, tu peux raconter ce que c'est en fait, c'est parce que ça change l'histoire du cinéma.
Oui, ben parce qu'à l'époque, bien évidemment, les studios disaient bon voilà, on va lui donner ça. Ils pouvaient pas imaginer que des figurines d'un film qui pensait d'ailleurs qui n'allait pas faire de recettes pouvait avoir une valeur quelconque. Et c'est vraiment pour moi le génie de George Lucas, c'est non seulement de penser ça, mais comme je disais, c'était de nous donner à nous en tant que gosses ces objets, ces figurines, ces jouets, parce que finalement ce que ça a créé, c'est ce désir de nous. On allait au-delà du film, ça devenait tactile. C'est comme si on rentrait dans le.
J'allais dire, on appartenait au film.
On appartenait au film. On rentrait vraiment dans le bac à sable de George Lucas et on jouait avec ses idées, avec ses personnages tous les jours. Et donc finalement, en grandissant, cet univers, il nous appartenait aussi à nous. Et c'est comme ça que quand on a grandi et qu'on a commencé à se rebeller contre lui, c'est là que les fans deviennent un petit peu fous parce qu'ils disent, cet univers, il est à nous. Il est pas à toi, George. Il est à nous. Et, c'est pas complètement faux non plus.
C'est fascinant. Il avait 33 ans et il pouvait arrêter de travailler pour toujours, quoi.
Ouais. Non, mais ce qui est fascinant aussi, c'est que Star Wars, il a, à partir du moment où il a fait Star Wars, il a jamais fait d'autres films. Et il a parlé pendant des décennies de tous les films qu'il aurait voulu faire. Bon, alors bien sûr, il en a fait un il y a quelques années finalement, bon, dont on parlera pas. Mais je crois que ça l'a complètement accaparé. Il n'était plus lui-même. D'ailleurs, Francis Ford Coppola l'a dit. George Lucas était un cinéaste qui avait tellement de talent, tellement de potentiel, et Star Wars l'a fait partir
Si vous regardez son premier long métrage THX 1138, qui donne le nom au système de son THX, c'est un film quasiment expérimental. C'est un film d'anticipation, quasiment expérimental, d'une profondeur incroyable. Tout le monde disait effectivement que c'était le plus doué d'entre nous. Je crois que Coppola avait dit ça. Il faut rappeler que c'était une bande de copains qui était quand même composée de Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, qui était un peu le parrain parce qu'il était plus âgé que les autres. Quand ils ont pris l'avion puis qu'ils sont allés voir la première version sans les effets spéciaux de Star Wars, ils se sont tous moqués de lui. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oui, et puis il faut aussi dire que sa femme à l'époque, Marcia Lucas, qui était une des monteuses du film, a aussi, je dirais, sauvé le film sur le plan du montage, quoi. Donc, mais voilà, on en revient à cette idée que c'était une idée complètement folle, et je veux dire, le risque qu'il a pris, c'est extraordinaire. Ça, il faut quand même le dire, je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Non, mais je dis des mauvaises choses sur lui, mais j'ai beaucoup d'amour pour George Lucas.
En fait, je vais poser la question que certainement vous vous demandez. Est-ce que tu as rencontré George Lucas après le film, et est-ce qu'il l'a vu?
Ouais, je l'ai rencontré avant, parce que je mixais un film à Skywalker Sound, et je savais pas d'ailleurs à l'époque que j'allais faire The People vs George Lucas. Oui, je sais qu'il a vu le film, je sais qu'il il m'aime pas. Bon, c'est comme ça, quoi. Bon, c'est
il est pas là,
pourtant
c'est pas grave.
c'est un film enfin qui à mon avis est plein d'amour pour lui, quoi. C'est comme je dis, on m'avait demandé d'ailleurs hier de résumer le film en trois mots, et pour moi c'est l'amour, c'est la haine et c'est l'espoir, parce que les fans ont énormément d'amour, énormément de haine, mais il y a toujours cet espoir que Star Wars va continuer d'aller vers des horizons extraordinaires. Et bon, voilà, maintenant c'est ce que c'est, quoi, mais c'est ça va être assez intéressant de voir ce que ça va devenir dans les décennies à suivre, parce que là
c'est
ça va continuer.
C'est parti, ça. Effectivement. Jean-Jacques Fontaine, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle, Star Wars? Ça vous dit quelque chose, bien sûr, mais
oui,
ça vous parle.
Enfin, moi je suis d'une génération un peu plus ancienne que que Alexandre, donc Star Wars, j'étais déjà adulte quand c'est sorti, j'ai pas eu la même fascination, disons, pour Star Wars. Mais ce à quoi me fait penser ce phénomène, c'est aussi, alors pour revenir au Brésil, il y a aussi des phénomènes du même type qui ne sont pas liés à un film ou à une mythologie ou à des produits dérivés, mais qui est le phénomène des telenovelas, hein, parce que cela façonne la culture populaire brésilienne depuis longtemps. Il y a eu de tout dans les telenovelas, hein. Il y a des bons moments et des moins bons moments. Mais je me rappelle très bien qu'au moment de la fin de la dictature, c'est-à-dire au début, les premiers pas de la redémocratisation du Brésil, il y avait une grande telenovela qui s'appelait Rock Santeiro, qui a fait d'ailleurs après le tour du monde. Et qui mettait en scène effectivement des situations vécues et fictionnées, hein, de la situation de gens qui effectivement essayaient de reprendre leur dignité face à des gens qui face à des dictateurs de la vie quotidienne, hein. Et aujourd'hui, la telenovela reste quelque chose qui fascine la vie de tous les jours. On en a, je veux dire, il y a des résumés dans les suppléments hebdomadaires télévision. Il y a des résumés des épisodes à venir. Et puis on dit que il y en a 4 ou 5 qui suivent le soir, hein, à la télévision Globo. Et entre celle de 7h, de 7 à 8, qui va de 7 à 8, et la grande qui va de 9 à 10, enfin de 8h30 à 9h30, il y a le téléjournal. Et on dit que les gens, ils vont manger et aux toilettes pendant le téléjournal entre les deux télénovelles. C'est l'inverse de chez nous.
Je vois. Bien, on arrive presque au terme de cette émission. Alexandre, vous avez des projets encore, on en parlait tout à l'heure, je crois.
Oui, hein,
une pile de projets.
J'ai une pile de projets. Bah, comme j'ai dit, j'en ai un sur Monument Valley, j'en ai un sur Alien de Ridley Scott, particulièrement la scène du chestburster. Mais enfin, c'est un film très mythologique. Chestburster, je sais pas comment on dit. C'est le moment où Alien quitte le ventre, la naissance. Tu vas faire un film de 90 minutes sur le monstre qui sort du ventre. Voilà, exactement. Exactement.
Très joli.
Et puis j'en ai un sur l'Exorciste, en fait, que je fais avec William Friedkin, que j'ai déjà interviewé pendant 3 jours, et là je vais le revoir dans un mois. Et puis un film d'animation, documentaire hybride, sur les origines du monstre de Frankenstein et du vampire moderne, qui est donc fait ici aussi en Suisse, en coproduction avec Type Image à Genève. Voilà.
Parfait.
C'est formidable. Il est parti aux États-Unis et maintenant il a 2 projets au moins en coproduction suisse. Ouais. Et c'est bien, et ça nous touche, parce que c'est vrai que la mythologie d'Alien doit quelque chose à la Suisse, par Giger.
Bien sûr.
Et Frankenstein est né sur les bords du lac Léman.
Donc, et le vampire moderne.
Absolument
pas. N'oublions pas.
Ouais. Bien, mais c'est déjà la fin de cette émission. En ce qui me concerne, je ne serai pas là demain. Vous retrouverez Amaël, Thierry. Bah ouais.
Bon, ça va quand même.
Ça va aller.
J'espère qu'elle aura des mouchoirs.
oui, elle va vous faire pleurer. Ça, certainement.
Non, c'est votre absence qui va me faire pleurer.
Ah, ça, c'est gentil. Merci Jean-Jacques Fontaine d'être venu. Merci Alexandre,
merci.
Philippe.
Merci.
Bonne continuation ici au festival. Je rappelle que vos films sont encore projetés. Vous allez sur le site du FIF, au FIF.
Ne tardez pas.
www.fif.ch. Merci à Icon de nous avoir reçu ici pour ce petit déjeuner qui se poursuivent encore demain avec Amaël. Merci aussi à Pascal Gidé pour la technique. Je pense que nous n'avons pas le temps, j'imagine, d'écouter la dernière pause musicale qui avait été choisie par Océane Bird. Ben, déjà, ah mais Océane, elle avait déjà choisi un morceau hier, je crois. C'était le Sacre du printemps de Stravinsky. On le met juste comme ça en toile de fond pour se dire au revoir. Et puis, ben moi, je vous quitte et je vous souhaite.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Nous avons une SMS box qui s'est ouverte, donc vous pouvez envoyer vos messages. Il y en a qui a déjà Salomé qui est toujours la première et c'est
Salomé,
une tradition. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui ?
Elle dit bijou les gens. Élise arrivera en retard car elle mange.
Ah ben on est super heureux de le savoir.
Bon,
non, parce que nous on a tellement peu d'auditeurs qu'en fait on fait l'inventaire. Salomé, présent. Élise, excusez, elle arrivera plus tard, elle mange. JD,
présent.
Jonathan,
présent.
Ah, ils sont là, tous nos auditeurs sont là.
Ça va bien. Et toujours avec Andreas, fan de Gotteron, supporter qui nous apprend le Sensler. Et grâce à vos SMS, quelle chance, hein. Vous nous avez bombardé de messages avec des numéros de Suisse-Allemand. Mais avant de composer un numéro de Suisse-Allemand, on va encore demander à Andreas de nous apprendre quand même un chant de supporters de Gotteron après une Sensler Touch.
Ah, où ça? Chilo, chilo, hockey, got, hockey, got, hockey, got. Chilo, chilo, hockey, got,
Okay, got.
Okay, got. Alors, on.
Chilo, chilo, okay, got. Okay, got. Okay, got.
Chilo, chilo, okay, got. Okay, got.
Super!
Ouais, celle-ci, on maîtrise. Bravo. C'est pour la perfection.
Non,
magnifique.
C'est bien, hein.
Okay.
Alors,
c'est bien.
Ça, c'en est une. Ça, ça va bien. On est prêt.
Celui-là, c'est bon?
Ouais.
Encore une petite. Andreas, non, rien.
Ja, Momo. Bis nicht, ob ich darf, aber ich mache schon.
Ja.
Allez, on est content.
Attention, je ne sais pas s'il a le droit, ça risque d'être un peu vulgaire.
Non, non.
Nous ne sommes pas comme ça dans cette émission.
Drum, prends que respire, motte, c'est allé, so blöd.
Ouh là là.
Après, ça continue tout le temps.
Drum,
prends que respire, motte, c'est allé, so blöd.
Drum, ça veut dire, pas, ça n'a rien à voir avec une voiture.
Non, c'est drum,
à cause, à cause.
À cause.
Mais c'est pas gentil, c'est contre le Bernois. Ça dit, à cause des Bernois, ils sont cons, tu réussis pas de bière.
C'est la guerre avec les Bernois.
Ouais, bien sûr.
Drum, crunch, crispy. Et après comme des Rice Krispies.
Crunch Krispies. Il fait une pub pour les céréales.
Et après, c'est quoi?
Motze, sie alle so blöd.
Drum, crunch crispy.
Motze.
Nutze.
Motze, nicht nutze.
A mutze.
Si.
Ali. So.
Blöd.
Blöd. Ah, ouais. Voilà, c'est nickel. Maintenant, on peut maîtriser.
Ah.
Okay.
Je crois que je suis prêt, là. Hein.
Voilà, alors on va essayer d'appeler le cousin à la copine.
Ouais, on sait pas qui c'est. C'est le cousin à la copine.
Ah.
Tout mouche.
On va noter les paroles.
Ya, t'as drum.
Si.
À gauche, en haut. À droite, en haut.
Ah oui, à droite.
Andreas, une petite chanson pour nous mettre dans...
Allô?
Allô?
Tu bist... Wie haben Sie?
Mario.
Ja.
Achso, ich habe eine Frage. Willst du mit mir eine Hockey-Match gesehen?
Hä?
Willst du mit mir kommen für eine Hockey-Match gesehen?
Wieso?
Von Gotteron.
Mit wem?
Mit mir.
Wer ist am Telefon?
Es ist Gide von Radio Fribourg.
Radio Fribourg?
Ja.
Warum muss ich mit Match kommen? Ich habe Stadionverbot.
Für singen?
Hä?
Für singen?
Ich habe Stadionverbot.
Was?
Stadionverbot.
Il a plus droit à aller au match.
Warum das?
Was passiert? Du hast ein Problem mit Hose V.
Mit wem?
Warum muss Rasho nicht mehr zum
Mario?
Ischalaga.
Du bist ein Gotterons-Fan, nicht?
Ja.
Du gehst nicht, du kannst nicht mehr zum
Ischalaga.
Na?
Ja.
Ja, okay. So, kennst du eine kleine Song mit uns singen?
Ja, gern.
Okay.
So,
wie?
1, 2, 3.
Shilo, hockey Gott. Shilo, hockey Gott.
Mit uns. Allez, Mario.
Shilo, hockey Gott.
Mario. Mario, du kennst diese Song, Sung.
Wieso tut ihr singen die ganze Matche nach?
Was hat
die Buch en Chant und es sind pas de Match?
Ja, aber wir lernen Deutsch.
Wir lernen Deutsch mit dir.
Ja, Mario.
Du bist unser Teacher.
Unser Lehrer. Gau?
Mario,
weißt du was? Wir rufen jetzt einen Freund von dir.
Ja.
Gau?
Ja.
Und so kannst du wissen, wer hat uns deine Nummer gehabt.
Oh la la la. Das ist difficile. Alors, attention. Du hast einen Freund in dieser Planet.
Ja.
Wir rufen deinen Freund.
Dein Freund. Wir kennen nicht den Namen.
Name geben. Ja. Und es hallo.
Hallo,
wie geht's? Wie ist am Telefon?
Ouais, j'écoute la radio.
Oui.
Aha, c'est qui?
C'est Florian.
Florian!
Kennst du Mario, Florian?
Ouais, bien sûr, je connais Mario.
Und Mario, kennst du Florian?
Ja, ich kenne den.
So, Mario und Florian.
Ja.
Eins, zwei, drei.
Chilou, chilou, hokre got, hokre got, hokre got. Chilou, chilou, hokre got, hokre got.
So, so gut, hein?
Ja? Ah. Maintenant.
Yay, yay, yay. Riva, riva, yay.
De Mario riva. Und de Florian.
Ja.
Allein, ja. Tout seul.
Allein.
Et tu chantes, Mario.
Attention.
Ja.
Es wird drü.
Chilou, chilou, hokre got, hokre got, hokre got. Chilou, chilou, hokre got, hokre got, hokre got.
Bravo les gars.
Bravo.
Du. Hey, ja, so eine Spezie.
Was?
Et quoi?
Mieux.
Il est mieux.
Ah, il est mieux.
Non, il a une mieux.
Il
ah,
a fait mieux.
Ah, ça pèse, ça s'inquiète.
Hé, les gars, maintenant.
Mario.
Vous en chantez une bien. Vous en chantez une très bien tous les deux et je vous invite à un match de Gotteron mercredi 14 contre SC Berne.
Flo, bist du dran? Ja, ja.
Ja.
Komm mit Dinge, scheiße,
scheiße, STB. Scheiße, scheiße,
STB. Ça fait bien rire, Andreas.
Scheiße, scheiße, STB. Scheiße, scheiße,
STB. Ist
das gut, Andreas?
Tip top.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé les grosses têtes sur Paris Première avec comme invité Chantal Latsou qui raconte des anecdotes qu'on comprend pas toujours.
Je revenais du théâtre, j'avais une vieille 404 car j'ai fait du théâtre depuis un certain temps. Et donc, j'avais une vieille 404 et je suis tombé en panne d'essence.
Oui.
Dans la grande descente.
Dans le bois de Boulogne.
Dans le bois de Boulogne. Alors là, j'aurais pu dire un pognon, ils étaient tous derrière moi. Et je suis arrivé au ralenti, je suis allé à la grande cascade, j'appelais tout de suite mon mari, il n'y avait pas les portables. J'ai couru, il y avait un mariage à la grande cascade, j'appelais vite, viens me chercher, etc. Ils étaient décis parce qu'il faudrait que mon mari venait me chercher.
On n'a pas tout compris de la dernière partie.
Ah oui, moi j'ai tout
la
compris.
La prochaine fois que vous continuez à nous parler, enlevez le client.
Moi c'est hyper une fois.
Non, moi j'ai fait Chantal là-dessous, deuxième langue, j'ai tout compris.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Fribourg, c'est une autre histoire.
Qui pour nous raconter une nouvelle histoire, une autre histoire chaque semaine, l'historien maison de Radio Fribourg. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Mike, bonjour à tous et à toutes.
Parmi les événements que nous commémorons cette semaine, la déstalinisation, j'y suis arrivé, on en parle dans quelques instants. On évoquera le péronisme également, ça va nous ramener en 1946. On continue notre gros dossier sur l'Ukraine. Mais avant cela, Alain-Jacques Tornard, il faut quand même que je vous félicite. Hein, vous étiez sur Arte en fin de semaine dernière. Vous passez très bien à l'écran, ça on le savait déjà. Et vous avez vraiment évoqué cette page insolite de l'histoire des relations en franco-suisse à la toute fin du règne de Napoléon Ier. C'est un régal de vous voir et d'entendre expliquer ça sur Arte. Hein.
Oui. En fait, on a tourné ça l'été dernier sous une pluie battante. C'était à Neuchâtel. Ouais. C'était assez étonnant. Alors, en parenthèse, pour nos auditeurs auditrices qui aimeraient bien voir, c'est repassé hier matin sur Arte vers 9h15. Et donc, sur le play RTS.
Voilà, soit vous avez le replay de votre opérateur, ou alors vous pouvez aller sur le site internet ou l'application d'Arte et on trouve plus ou moins facilement. Hein.
Exactement. Alors, moi j'avais lancé cette idée, c'est de raconter, parce qu'il y a une séquence, c'est l'incontournable, côté un petit peu insolite. C'est une émission qui s'intitule Invitation au voyage. Le voyage, là, nous menait à Neuchâtel parce que c'est de là, en grande partie, qu'est partie l'invasion du territoire français en 1815. En juillet 1815, on profite de la défaite de Napoléon, on attend quand même prudemment d'être sûr qu'il a été vaincu, pour envahir la France. Je pense qu'on se dit, tiens, ça serait peut-être l'occasion de se venger du fils de la Révolution.
Vous l'avez bien entendu, la Suisse a tenté d'envahir la France.
Elle
n'a
pas tenté, elle l'a envahi. D'ailleurs, il y a eu des comportements, parce que forcément, là, il y avait l'instinct, vous savez, du mercenaire du 15e siècle qui est ressorti d'un coup. Donc, comme c'était des troupes un peu mal entourées, sauf celles qui venaient du service de France, ils se sont pas toujours très bien comportés. Ça laissait d'ailleurs des traces dans les archives d'ailleurs, et puis dans l'imaginaire collectif. On avait associé avec les Autrichiens que c'était aussi mal comporté. On s'est approché d'une quinzaine de kilomètres de Besançon quand même. Alors contrairement à ce que la commentatrice dit dans le reportage, ils n'ont pas atteint Besançon, mais ils sont quand même approchés d'une quinzaine de kilomètres. On avait pris Morteau, Pontarlier.
C'est fou ça.
Ça a duré tout le mois de juillet. Puis après, on s'est rendu compte quand même qu'on s'était un petit peu avancé. Et puis surtout, c'est parce que le commandant en chef, c'était le général Bachmann, qui voulait venger la mort de son frère 25 ans plus tôt aux Tuileries. Et donc, ils se sont offert une petite campagne. Alors,
et puis à la tête d'une armée très hétéroclite, faut le dire.
Oui, il y avait les milices locales, il y avait les anciens du service de France, il y avait de tout. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être avoir un point de ralliement. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, on va mettre un brassard à croix blanche, rouge à croix blanche. Et puis ça va nous donner, ça va offrir quand même quelque chose d'important, c'est l'annexion de territoire autour de Genève. Alors contrairement à ce qui est dit aussi dans le commentaire,
la voix off a dit beaucoup de bêtises,
les hectares acquis, ça se concerne uniquement Neuchâtel, parce que Neuchâtel va acquérir un petit territoire, mais qui est important parce que c'était une route stratégique, le Cernieux-Péquignot. Donc si vous allez de ce côté-là, vous savez que c'est un petit bout de la Franche-Comté qui a été donné au canton de Neuchâtel.
On vous recommande vraiment le passage d'Alain Jacques Tornard sur Arte. Vous avez encore le titre de l'émission, là, je ne me rappelle plus comment l'émission s'appelle.
Oui, Invitation au voyage.
Invitation au voyage, voilà, comme ça vous pouvez retrouver plus facilement le podcast ou le replay. Exercice de prononciation ce matin, déstalinisation. On va revenir en 1956 avec Nikita Khrouchtchev qui voulait marquer la fin d'une époque en Union soviétique. Mais est-ce que c'était vraiment la fin d'une époque? C'est ce que va nous raconter Alain Jacques Tornard dans les prochaines minutes après Craig David et Walking Away.
C'est une autre histoire.
Avec Alain Jacques Tornard qui tout à l'heure va nous livrer la deuxième partie de son gros dossier sur l'Ukraine. Mais avant cela, peut-être pour mieux comprendre un peu ce qui se passe dans certaines parties du monde, on va remonter un 24 février 1956. C'est le 20e congrès du Parti communiste.